Radio Panique. Il est 18h01. Nous sommes le mercredi, c'est La Vie Électrique. Bonjour Benoît.
Bonjour Pierre.
Oh, on ne vous entend pas beaucoup,
ah,
Benoît.
Ah là là là, et comme ça, voilà.
Ah, ben voilà.
Je le refais avec autant d'enthousiasme. Bonjour Pierre.
C'est beaucoup mieux. La Vie Électrique, une émission où on parle de science-fiction, de fantastique, d'imaginaire et de musique aussi, de musique évoquant les mêmes domaines, notamment le futur, le cosmos, le mysticisme le plus total. On écoutera du Pharoah Sanders sans doute aujourd'hui. Le choix du morceau dépendra peut-être du temps qui nous sera imparti, étant donné que certains morceaux de Pharoah Sanders peuvent être fort longs et c'est parfois les meilleurs.
Oui, oui.
Voilà. On parlera aussi, encore une fois, de Tilda Swinton, comme la dernière fois.
Bizarrement, c'est un peu bis. Oui, on va passer pour des fans.
Ce que nous sommes.
En fait, on est. Oui.
Ce que nous sommes, et puis par ailleurs, on passe un peu aussi pour le tandem de service dans La Vie Électrique en ce début de saison. On attend un peu le retour de nos collaboratrices habituelles et pas si habituelles, puisqu'il y a un nouveau, mais voilà. Pour le moment, on est un peu en effectif réduit et on tourne donc avec nos obsessions du moment.
Dans nos obsessions, avec nos obsessions.
Voilà.
On se vautre dans nos obsessions, carrément.
C'est comme ça. Bon. Mais Tilda Swinton, on y reviendra dans quelques instants. Donc pour le moment, on peut voir des films qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit d'habitude et qui ne sont pas les plus courants dans sa filmographie. Et donc c'est intéressant. Certains sont des films de science-fiction, justement. Mais on va commencer avec un premier morceau qui, lui non plus, n'est pas tout à fait sans rapport avec elle.
Absolument. On explique ou on explique après ?
Ouais, on explique avant. Hein.
Allez, on explique avant.
Allons-y.
Parmi la filmographie étrange de Tilda Swinton, il y a également des vidéos musicales, notamment la vidéo d'un morceau qui s'appelle The Box, du groupe Orbital, donc fin 80, début 90, quelque chose comme ça.
Plutôt début 90.
Plutôt début 90, oui. La vidéo a été nominée meilleure vidéo musicale en 97, donc on doit retourner dans ces eaux-là.
Ah oui, et on est 1996, hein,
voilà.
Voilà. C'est pas les tout débuts d'Orbital.
Absolument pas. Non, 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 non. Et pour ce morceau, le duo a eu la bonne idée de faire appel à un autre duo de cinéastes cette fois-ci, Jess Benstock et Luke Losey, qui ont eu eux-mêmes la très bonne idée de caster Tilda Swinton dans le rôle principal qui est un machin étrange, un personnage comme elle aime les faire, qui est un petit peu expliqué comme un alien observant de loin l'humanité qui passe à côté d'elle à toute vitesse sans la voir et qu'elle observe comme ça un petit peu à la loupe. Le clip est très 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 beau, il est très 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 long, et il est filmé en stop motion avec des accélérations, des ralentis. Enfin, c'est à l'époque c'était vraiment très 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 très, très impressionnant. On en a vu un peu beaucoup des comme ça entre temps, mais il était très 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 beau. Le morceau lui-même est très très beau aussi. On a choisi une des versions, il y en a une de 28 minutes. Ce ne sera pas celle-là, ce sera une autre. De boxe donc.
Voilà. Et puis Tilda Swinton dans des rôles d'extraterrestres, eh bien on y reviendra dans quelques instants. Enfin, dans 6 minutes et 27 secondes.
Pour ne rien vous cacher.
Thank you.
puis c'est là que ça s'enchaîne avec une deuxième version de 6 minutes elle aussi.
C'est ça, beaucoup plus rapide d'ailleurs.
Et puis, attendez.
Un petit bout, voilà.
Ça c'est le début de... C'est pas tout de suite plus rapide, en fait.
Ça vient vite.
Bon, toujours est-il qu'on va pas l'écouter en entier, on va pas écouter la version de 28 minutes non plus, c'était donc Orbital.
Pas cette fois-ci. Allez.
Pas cette fois-ci, une autre fois peut-être. Orbital avec ce morceau de Box et son clip vidéo que vous trouvez certainement en ligne dans lequel il y a Tilda Swinton.
Voilà, c'était le prétexte, ou la bonne raison, ou voilà.
Voilà, donc pour le moment sur la plateforme Mubi, on peut voir tout un petit cycle consacré à Tilda Swinton avec des films parfois pas si courants que ça, des courts-métrages,
des vidéos comme celle-ci.
Le film dont vous parliez la dernière fois,
tout
mon
à fait.
Cher Benoît, où on entend sa voix, mais on ne la voit pas, puisqu'on voit des architectures brutalistes de je ne sais plus très bien quel pays,
l'ex-Yougoslavie.
Voilà. On va enlever Orbital. Hein. Voilà. On ne s'entend plus, plus parler ici. Et puis aussi deux films de science-fiction qui ont fait leur apparition là et qui ne sont pas des... Voilà, ce n'est pas des super productions hollywoodiennes, ce n'est pas des films qu'on trouve facilement, qu'on trouve en DVD partout, qui passent régulièrement. Et donc on se dit que ça vaut la peine d'en parler. Et par lequel est-ce qu'on commencerait ? Par celui qui est éventuellement qui fâche un peu.
Celui qui fâche un peu.
Oui, enfin bon, voilà, qui a ses qualités, mais on va dire aussi ses défauts.
Alors,
en tout cas, de mon point de vue, qui est Technolust, de Lynn Hershman-Leeson. Film qui date... j'étais assez surpris de voir qu'il datait du début des années 2000. Moi, en le regardant, je l'aurais clairement mis quelque part dans les années 90.
C'est un des problèmes de ce film, effectivement, c'est d'avoir
Est tout de suite un peu daté. Hein,
dès sa sortie.
De film, très drôle de film quand même, une sorte de projet de film. C'est très arty, cinéma d'auteur, Fondation Sundance, etc. Et en même temps avec une esthétique très série B, voire série Z. On est donc dans un univers de science-fiction proche, puisqu'on est dans un présent identifiable par les modèles de voitures, les modèles d'ordinateurs.
D'ordinateurs, avec un placement de produits scandaleux.
Clairement, Apple a participé au financement de ce film.
On peut imaginer.
Et donc, on est dans... Comment expliquer cette histoire ?
On est dans une histoire scientifique, à la base.
Oui.
Puisque ça commence un petit peu comme ça. Une biogénéticienne qui fait des travaux un peu secrets dans sa chambre, chez elle, qui s'est emparée de ses recherches pour développer son projet personnel qui consiste à créer des clones d'elle-même, principalement. Et très rapidement, on en rencontre trois. Et c'est le début du côté arty du film, puisque les trois personnages correspondent à des codes couleurs et sont systématiquement habillés, l'une en jaune, l'autre en vert et la troisième en rouge.
Non, il n'y en a pas en jaune, il y en a pas en jaune. En vert, en bleu et en rouge.
Vert, bleu, rouge. Ben, ça commence bien, voilà. Déjà, les souvenirs qui foutent le camp de la semaine dernière. Et... à partir de là, donc, on a un petit peu l'explication de leur survie, de
oui,
ce qu'elles doivent faire pour
survivre.
Ce qui est
très bizarre, c'est que ce sont des créatures qui sont à la fois des créations de biogénétique, mais des créations informatiques. Et il y a pendant tout le film une sorte de glissement entre l'informatique et l'organique, avec des choses qui passent de l'un à l'autre et où comme si le virtuel n'était pas virtuel du tout, était totalement réel, avec des histoires de virus informatiques qui peuvent traverser la barrière des espèces et devenir des virus. Et on se dit c'est du techno blabla particulièrement peu crédible, et en même temps je pense que c'est complètement assumé, j'espère que c'est complètement assumé d'avoir cette espèce de truc un peu poétique dans cette façon d'aborder des choses, des concepts technologiques et de les appliquer à des pensées plus poétiques, organiques, etc. En se disant, tant pis, voilà, le mot évoque ça, utilisons-le comme ça. Ce qui a l'air de beaucoup énerver certains spectateurs, parce qu'effectivement, il n'y a absolument rien de crédible à aucun moment.
Non. Même la continuité est compliquée.
Voilà, la vraisemblance est le dernier des soucis de ce film. Et c'est un peu inconfortable, en fait, parce que dans son esthétique de série B, on s'attend à un truc un peu, au moins raconté, avec une forme d'efficacité et de souci pour ce genre de truc, mais en fait, non, pas du tout.
En fait, non. En fait, non, absolument pas. Donc, il y a un petit discours derrière, un discours sérieux, un peu assumé, qui traverse un petit peu le film, un questionnement sur l'identité, qu'est-ce que c'est être un robot, qu'est-ce que c'est être un être humain, qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est, etc.
Et un petit discours sur l'amour aussi, le film est assez fleur bleue.
Oui, aussi. Très très beau.
Et plutôt touchant.
Oui, avec parfois des explications un petit peu compliquées sur la dépendance amoureuse et le fait d'avoir besoin de quelqu'un plutôt que d'avoir... Enfin bon, voilà, ça s'appelle Technolust, mais en même temps ça parle de dépendance. Enfin, là aussi, c'est un espèce de gros mélange à peu près au même niveau, au même point, au niveau philosophique qu'au niveau scientifique. Et donc voilà, donc tout ce petit monde...
Et quand même, quelque chose qu'il faut peut-être dire assez vite, parce que c'est ce qui... Ça s'appelle Technolust aussi, parce que donc une des trois clones est la seule à sortir dans le monde réel, parce que les deux autres ne peuvent pas sortir, et elle part en mission pour récupérer un ingrédient qui est indispensable à la survie des trois clones en question, qui est du sperme. Voilà. Et on ne comprend jamais très bien pourquoi. Et on se dit, avec un résumé pareil... Et un film qui s'appelle Technolust,
ça va être torride.
Ça va être torride. Et c'est une série Z pornographique, mais pas du tout.
En fait, non, c'est juste presque drôle, en fait. C'est très léger. Et c'est souvent très très drôle, en fait. Il y a beaucoup d'éléments très.
C'est plus une comédie, mais en même temps, c'est une comédie avec avec zéro sens du timing, comme ça tout est joué un peu flat, en tout cas par les acteurs en dehors de Tilda Swinton. Tilda Swinton, elle a ce truc un peu particulier qu'elle joue à la fois la scientifique qui est une nerd et puis les trois clones qui sont un peu qui ne savent pas comment les rapports sociaux fonctionnent et qui sont en fait d'origine artificielle et donc voilà, qui peuvent avoir un côté robotique. Et donc ça, elle le joue avec un ton parfois un peu froid, et c'est évidemment voulu, mais tout le film est un peu froid comme ça, un peu lent dans les dialogues, avec des rythmes qui ne fonctionnent pas vraiment. C'est très curieux,
ça sent presque l'improvisation par moment, mais on imagine que non.
Voilà. J'ai trouvé ça moyennement convaincant, je dois bien l'avouer. Mais en même temps, je l'ai regardé jusqu'au bout et il y a des choses qui m'ont amusé, mais en fait, j'étais quand même pas tout à fait convaincu. Mais pour un vrai fan de Tilda Swinton,
c'est une vision indispensable. Quatre fois.
Voilà, on la voit en de nombreux exemplaires, y compris dansant avec elle-même, avec un trucage de fond vert pas tout à fait réussi. On a un peu l'impression de voir un clip vidéo des années 80.
Là encore, on est dans le daté, malgré l'année 2002 de sortie du film.
Et donc, c'est voilà, là qu'on voit que 2002, c'est déjà très loin, en fait.
Ça fait quoi? Oh mon Dieu, oui. 20 ans.
20 ans, oui. Et notamment, tous les aspects graphiques sont incroyablement vieillots. Donc, tout ce qui représente des choses qu'on trouve sur Internet, etc.
Voilà.
C'est horrible, en fait, le début des années 2000.
Est-ce qu'on recommande ce film quand même? Ben oui.
Oui, je pense que ça vaut la peine de le voir. Mais
performance d'acteur, que ce soit elle ou les rares autres acteurs, parce qu'il y a quand même d'autres, il n'y a pas que elle. Quatre fois, il y a d'autres acteurs, notamment James Urbaniak et Karen Black, qui font tous les deux des personnages assez étranges.
Oui, et puis il y a le Bellâtre qui fait des photocopies ratées.
Oui.
Comment s'appelle-t-il encore? Jeremy Davis ou un truc comme ça.
On cherchera à vérifier ça. Donc voilà, il y a des petites scènes comme ça, assez plaisantes. Ce n'est pas laid, malgré le côté un peu dégoulinant du code couleur, comme ça. Mais oui. Voilà.
Non, mais il y a certaines, à ce propos-là, sur les couleurs, il y a une réplique qui est vraiment très très drôle, quand une de ses victimes doit donner son signalement. Enfin bon, voilà, je ne vais pas dire la réplique, parce qu'après elle sera moins drôle quand vous la verrez.
Mais oui. Voilà.
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 Technolust de Lynn Hirschman-Leeson, qui est une réalisatrice que j'avoue je ne connaissais pas vraiment. Je vois qu'elle a aussi fait un film sur Ada Lovelace.
Tout à fait. Apparemment, elle a fait une espèce de biographie filmée d'Ada Lovelace.
Ouais, mais avec une histoire de voyage dans le temps. Donc là aussi, c'est pas simplement une biographie filmée.
Ce n'est pas que.
Voilà. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est réussi, semble-t-il, sur Internet. Mais bon, c'est souvent comme ça.
Qu'est-ce qu'il a encore fait d'autre aussi? Ben, elle est surtout connue pour avoir fait de la performance, pour avoir fait des écrits, critiques, etc. Et avoir fait principalement dans le docudrama, apparemment. Comme ceci, quoi. Voilà, ça c'est là.
Quelqu'un qui est lui aussi plutôt connu pour ses écrits critiques.
Voilà, l'enchaînement radiophonique.
Et bien plus pour ça que pour ses films, c'est Peter Wallen, qui est le réalisateur de l'autre film de science-fiction avec Tilda Swinton dont on voulait vous parler aujourd'hui.
Mm-hmm, qui s'appelle Friendship's Death.
Voilà, Peter Wallen, donc il a écrit énormément de choses en fait. Hein. Il a une bibliographie bien fournie et notamment manifestement un classique de la théorie cinématographique dans le monde anglo-saxon. Et plus précisément, surtout en Grande-Bretagne, et qui est vraiment considéré comme le livre à lire pour devenir théoricien du cinéma. Bon, voilà. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu, je ne suis même pas sûr qu'il est traduit en français, parce que pour ce qui est de la théorie du cinéma, entre la Grande-Bretagne et la France, ça ne s'est jamais très bien entendu.
Oui.
Bon,
c'est
donc
pas,
voilà.
C'est pas le même cinéma, c'est pas la même théorie.
Peter Wallen, par ailleurs, il a donc fait des films, et notamment il a fait des films avec une femme qui à l'époque était son épouse, qui est Laura Mulvey. Laura Mulvey, qui elle aussi est théoricienne du cinéma, et à qui on doit notamment le concept de male gaze. Voilà. Avec une définition qui n'est pas forcément exactement la même que celle qu'on utilise aujourd'hui dans la pop culture, maintenant que le terme est devenu complètement généralisé, utilisé
oui.
un peu partout, et sans doute parfois avec une définition moins précise que chez Laura Mulvey. Voilà. Laura Mulvey qui donc a non seulement écrit, mais aussi fait des films, et notamment avec Peter Wallen. Peter Wallen qui n'a fait donc qu'un long métrage de fiction, c'est ce Friendship's Death.
Okay, c'est son seul solo.
Voilà, dont on va vous parler aujourd'hui. Et celui-là, je dois vous avouer que je ne l'ai pas vu jusqu'au bout, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que j'avais fait la matinale et que je n'avais plus à garder les yeux ouverts.
Voilà, vous saurez tout.
Voilà, c'est la cuisine interne de l'émission. Et donc, je ne vais pas me risquer à dire tout sur ce film, puisque je ne l'ai pas vu jusqu'au bout, mais j'ai eu l'impression qu'il était merveilleux. Et donc, je compte bien regarder la fin.
D'accord, c'est pas mal comme lancement. On va quand même raconter un
Benoît, petit peu. Benoît, c'est à vous.
Voilà, hop, débrouille-toi. Alors, tout à l'heure, on disait 2002. Ici, on est en 1987. Et ça se sent, mais c'est juste bien. C'est juste un film très dans son époque. Donc, c'est-à-dire un film avec un petit... Enfin, pour ce genre d'entreprise, en tout cas, c'est un film plutôt petit budget, film indépendant, qui a un petit peu des côtés théâtre filmé par moment. Ici, on a principalement deux personnages généralement enfermés.
Oui, enfin, qui a, c'est pas vraiment un côté théâtre filmé, mais il se fait que c'est un huis clos. Mais
un huis clos, voilà, voilà, un huis clos. Bon, ça fait, oui. Une différence subtile.
Bah, c'est pas filmé comme du théâtre.
Ça ne rentre pas par le côté jardin pour aller vers le côté court, certes, d'accord. Le point de départ du film, c'est une extraterrestre, Friendship, jouée donc par Tilda Swinton, qui avait pour mission de se rendre au MIT, dans l'Institut de technologie du Massachusetts, et qui se plante en chemin et débarque à Amman, en Jordanie, durant les événements de Septembre Noir en 1970.
Oui.
Ça, c'est le point de départ. Et ce point de départ est le prétexte, l'occasion, à toute une série de conversations entre elle et un journaliste qui couvre les événements de la région, où ils entament une série de conversations un petit peu surtout sur leur présence là, sur la guerre, sur l'humanité, sur qu'est-ce que c'est être... là encore une fois, toute une série de questionnements qui ont également un peu évoqué dans le film précédent. Et voilà, ce film évolue comme ça, de conversation en conversation, avec d'abord le personnage masculin qui doute un petit peu de l'histoire que Tilda Swinton est en train de lui raconter, et toute une série de choses qui viennent confirmer ses dires. Et à partir de là, il y a toute une série de réflexions un peu légères, un peu profondes, un peu philosophiques, pourquoi Tilda Swinton, cet extraterrestre appelé Friendship, est fascinée par la race humaine, parce que ce sont des gens qui savent rougir notamment, et toute une série de détails comme ça qui la font sophistiquée, on va dire. Et elle a comme... on n'est pas seulement dans l'extraterrestre, mais on est aussi dans un être qui est créé de manière robotique, de manière cybernétique. On a aussi une réflexion sur les liens entre l'humanité et les objets et les machines, et toute une série aussi de scènes assez fascinantes avec un vacuum cleaner, avec un aspirateur, une machine à écrire, avec toute une série d'autres éléments comme ça. Donc voilà, un film... un peu étrange comme ça, qui est moi qui m'a, alors c'est évidemment la référence ultra bateau si on parle de Tilda Swinton, mais ça m'a fait penser au dernier film au pluriel de Derek Jarman, qui avait ce côté huis clos avec des personnages qui rentrent, qui tournent en rond et puis qui parlent. Ici on a un peu ça, à part que le contexte est vachement plus historique, plus tragique. On a des bombes qui éclatent par les fenêtres, on a des combats de rue, mais tout ça est vu très de l'extérieur.
Quand c'est l'extérieur, en fait, on voit des images d'archives.
Oui.
C'est, on ne voit pas les personnages à l'extérieur, on voit des images d'archives du Septembre Noir.
Mmh. Et donc voilà, on a un côté observation par la fenêtre d'une chambre d'hôtel d'événements complètement tragiques, et cet ensemble de réflexions parfois banales, parfois profondes, voilà. Un film donc qui est vraiment très très compliqué à résumer, à raconter, et je crois qu'il faut pas...
Il faut pas forcément raconter plus, mais par contre c'est pas... enfin voilà, quand on le raconte comme ça, c'est pas évident que c'est bien, mais en fait c'est vraiment très très bien.
Oui. Oui.
Les deux acteurs sont parfaits, et en fait on est... enfin moi j'étais complètement fasciné.
Mmh. Oui.
Voilà. Ne croyez pas que c'est parce que je me suis endormi que c'est ennuyeux. Non, c'est vraiment très très bien. Ce film de Peter Whelan, et c'est vraiment bien dommage qu'il n'en ait pas fait plus, du coup, se dit-on. Enfin, il a comme fait plein de courts-métrages, hein, mais...
mais c'est autre
chose. Mais qu'on n'a pas vu.
Voilà. Il faudra un cycle Peter Whelan sur Mubi un jour, ou ailleurs. Voilà. Friendship's Death, on vous le recommande, regardez-le jusqu'à la fin. La fin, c'est encore autre chose, je peux rien vous en dire, mais c'est encore autre chose. Ça date de 87 et c'est très beau.
Voilà, et puis il reste du cycle Tilda Swinton, il y a aussi moyen de voir le remake de Suspiria, qui n'est pas forcément indispensable, le très beau Caravaggio de Derek Jarman, enfin voilà, il y a des choses, il y a de quoi faire.
Et ces deux-ci, justement, c'est parmi les moins évidents, j'ai jamais entendu parler de ces films.
Oui, donc c'est vraiment des films extrêmement obscurs, et c'est très très chouette d'avoir une occasion de les voir. Voilà, le week-end dernier, Pharoah Sanders... a quitté cette planète. Il avait 81 ans. Bon, j'étais sûr qu'il était plus vieux que ça, mais non, en fait, quand il a commencé à jouer avec Coltrane, avec Sun Ra, tout ça, c'était un tout tout jeune homme. Il devait avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. C'est quand même toujours incroyable quand on se rend compte de ça. Et donc, il n'est pas sans rapport avec toute une esthétique de jazz un peu cosmique, spirituel, afro-futuriste, voyage intersidéraux, corps astral, mysticisme, etc. C'est un des personnages importants dans tout le développement d'une esthétique à laquelle nous sommes assez sensibles dans La Vie électrique, et dont nous avons déjà parlé ici.
L'autre égyptien, avec Sun Ra.
Voilà, et donc on se propose d'écouter du Pharoah Sanders. Les morceaux de Pharoah Sanders sont parfois très très longs, et comme on le disait en début d'émission, c'est pas forcément les moins bons, les plus longs. Et donc, vous direz, il est 18h30, là, l'émission n'est pas finie, et pourtant, nous allons nous quitter avec un morceau qui est peut-être parmi... et qui est un morceau assez impressionnant, c'est The Creator as a Master Plan. Et en le lançant maintenant, on n'aura même pas l'occasion de l'écouter en entier. Donc voilà, La Vie électrique.
Taisons-nous.
Ça n'est pas terminé pour cette semaine, mais déjà, on vous dit au revoir.
Au revoir, donc.
Et on sera de retour avec l'épisode suivant dans 2 semaines. On écoute Pharoah Sanders jusqu'à 19h sur Radio Panique. Voilà. À très bientôt.
À bientôt.
afraid I have a working plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a working plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator makes but one demand. Peace and happiness through all the land. The Creator makes but one demand. Happiness through all. Oh,